Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois le docteur Robert Perrault et Junior Diakité qui viennent nous parler de la série « Aller vers les autres et se faire du bien en temps de pandémie ». Pierre Laporte nous arrive avec son espresso et son espresso allongé, le sujet « Athlète et santé mentale ». Notre collaboratrice Isabelle Provencher est aussi des nôtres. Elle nous parle des bienfaits des relations avec les grands-parents. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence avec Clara Luciani en chanson. La chanson s'intitule « Amour toujours ». Bienvenue à Folie douce.
Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'accueille maintenant mes invités, Dr. Robert Perrault. Vous êtes au téléphone, Dr. Perrault. Bienvenue à Folie douce.
Bien, merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
Ça nous fait plaisir. Et on a Junior Diakité qui est en studio avec nous. Bonjour, Junior.
Bonjour.
Alors, on va parler d'un projet ensemble, les deux. Un projet, en fait, une série qui s'intitule « Aller vers les autres et se faire du bien en temps de pandémie ». Si on pouvait situer ce que c'est, Dr. Perrault, vous êtes à la direction de la santé publique et vous avez été impliqué dans la réalisation de ce projet-là.
Absolument. Ce projet-là est né d'un constat qui n'est pas assez connu dans le public. Qui est celui qu'on guérit vite des stress comme celui associé à la pandémie. Vous savez, dans les médias, on voit beaucoup les souffrances des gens qui sont très légitimes, mais quand on regarde la science de comment évolue la santé mentale des populations qui sont soumises à des stress importants, on voit que les gens, en grande majorité, en réchappent et en guérissent rapidement. Et que très souvent, ils ont l'impression que ça va plus mal que ça va en réalité quand on mesure leur bien-être. Alors, on s'est dit, pour une fois, on va donner la parole aux gens qui ont eu des réactions, appelons-les positives si on veut, et que ces réactions-là, si on peut recueillir les récits de ces gens-là, on a une chance de les faire écouter à d'autres puis de leur donner des idées. Alors, c'est un peu l'idée de regarder la pandémie puis regarder tout ce qui nous est arrivé d'un autre point de vue, du point de vue de dire, écoutez, ça va mal dans le monde, mais moi, j'ai une contribution positive à faire. Alors, on a essayé avec nos collègues d'Execo, qui est un groupe communautaire dont c'est l'objectif de donner la parole à des gens qui d'habitude la prennent pas. On a essayé de recueillir des récits. On a fait ça en audio, c'est disponible sur le site web Santé Montréal, par exemple. On l'offre aussi en vidéo avec des images et des photos des enregistrements, des photos de où ça se passe, des quartiers où ça s'est passé. Alors, c'est un petit peu la logique qu'on essaie de suivre, de dire on lit des malheurs tous les jours, mais il y a aussi des bonheurs, puis il y a aussi des gens qui, dans l'adversité, ont eu des initiatives intéressantes. On pensait que c'était important de les faire connaître à tout le monde.
Est-ce que c'est un peu une première d'avoir un peu une collaboration entre un organisme du milieu et la santé publique? Ça me semble que ça n'arrive pas si souvent.
Ben, c'est moins visible d'habitude. Ça arrive souvent parce que la santé publique, son principal partenaire, souvent, c'est le mouvement communautaire. Mais ce sont des initiatives qui rejoignent moins l'opinion publique en général. Cette fois-ci, je vous avoue que moi, je ne connaissais pas Execo. Et quelqu'un chez nous les connaissait, ils nous ont référé à eux. Et eux se sont chargés de la production. Ils ont envoyé sur le terrain des membres de leur groupe. Ils sont allés rencontrer des gens. Ils ont travaillé avec des ingénieurs de son pour recueillir les témoignages. Et nous, finalement, ce qu'on a eu à faire là-dedans, c'est avoir l'idée, prendre l'initiative, puis plus ensuite, bien sûr, de diffuser au maximum cette production-là.
Oui. J'aimerais aller à notre invité en studio, Junior Diakité, qui a participé, donc un des participants de la série. J'aimerais que vous nous parliez de votre expérience, comment c'est arrivé, comment vous avez été choisi peut-être pour participer à ce projet-là.
Oui, donc moi, en fait, comment j'ai été choisi, ça a été à travers une amie que je connaissais depuis quelques années. Et elle est vraiment engagée dans le milieu communautaire et tout. Donc, au début de la pandémie, elle m'avait contacté me demandant si j'avais des opinions ou quelque chose à dire par rapport au confinement et comment je le vivais.
Ouais.
Et moi, ça tombait bien parce que j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus et j'avais pas vraiment de moyens de le partager. Donc, quand elle m'a fait cette proposition, j'ai directement accepté. Et là, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment moi je vivais ça et tout, puis comment je faisais pour pas m'ennuyer à la maison,
ouais.
comment je profiter de la pandémie comme égoïsme, mais plutôt comment je l'utilisais à mon avantage.
Oui, comment voir le côté positif de la chose, c'est ça?
Exactement.
Parce que beaucoup de gens, comme c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose presque de jamais vécu par notre génération, en tout cas. Si les gens, au début du siècle dernier, ont vécu ça, exactement. Nous, en tout cas, on ne connaissait pas grand-chose, mais beaucoup de monde s'est inquiété, justement, de la santé psychologique ou physique des gens qui étaient isolés. Donc, dans votre cas, ça s'est bien passé, comme vous me dites.
Oui, c'est ça. Moi, ça s'est bien passé parce que j'étais quand même... j'étais pas tout seul, j'étais avec ma mère et ma sœur avec qui je vis. Donc, on se voyait tous les jours et tout. Mais c'est sûr que les premiers jours, comme tout le monde, on croyait que ça allait se terminer rapidement en 2 semaines. Donc,
ouais.
J'ai pas développé... Je me levais tard le matin. Je me couchais tard aussi. Puis quand je me levais, j'ai joué aux jeux vidéo pendant des heures et tout. Après quelques jours de ça, j'ai vu que ça allait continuer pendant un mois. Donc là, je me suis dit, OK, faut que je ne peux pas continuer à vivre comme ça pendant un mois. Donc j'ai commencé à me développer une discipline, à m'entraîner, à apprendre de nouvelles choses comme l'espagnol que je remettais toujours à plus tard.
Ouais.
Ou apprendre un peu de programmation et tout, parce que c'est des choses que je voulais apprendre, mais je n'avais jamais le temps. Et là, j'étais juste à la maison, donc
ouais.
J'étais comme autant en profiter.
Donc les gens ont peut-être été plus, d'une certaine façon, plus résilients et plus débrouillards que ce que la société aurait pu penser en général.
Oui, c'est ça, exactement. Je pense beaucoup de choses que les gens remettaient toujours à demain, ils ont finalement trouvé le. Ils n'avaient plus vraiment d'excuses pour pas travailler sur leur projet ou ce qu'ils avaient à faire.
Ouais.
Ils ont été toujours à demain. Donc,
Docteur Robert Perrault, donc vous êtes toujours au bout du fil. Est-ce que vous avez été. Oui, est-ce que vous avez été surpris un peu des témoignages? Il y a plusieurs personnes qui témoignent. J'ai vu quelques capsules, justement, où on entend les gens témoigner. Est-ce que vous avez été un peu surpris de cette espèce de résilience puis cette espèce de côté positif qui ressort?
Je dirais que non. Je dirais que j'ai surtout été ravi de voir la diversité. D'expérience. Il y a des gens qui se sont exprimés par de la créativité, d'autres par de la générosité très, très bien ciblée. Il y avait quelqu'un, par exemple, une jeune femme qui nous disait, ben moi, j'achète des cartes cadeaux. Chaque année, je donne des cartes cadeaux à des gens plus démunis que moi. Et là, j'ai senti le besoin de lever encore plus de fonds pour donner ces cartes cadeaux-là dans la rue. Il y avait des gens de garderie qui ont inventé des projets. Il y avait toutes sortes de façons d'exprimer, je veux pas dire se révolter contre la situation, mais de réagir de manière plus positive, un peu comme ce que Junior nous raconte. Il dit, au début, je me levais tard, je foutais rien. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça peut pas durer comme ça. Et il faut que je fasse quelque chose. Et là, vous avez entendu déjà une série de mesures qu'il a prises. Et il y a beaucoup de gens qui font ça.
Ouais.
Et ces gens-là, on n'entend pas beaucoup parler. Vous avez tout à fait raison.
C'est vrai, et même les artistes, on a entendu beaucoup d'artistes qui étaient habitués d'avoir des. Qui donnaient des spectacles ou qui faisaient des. Et ils ont, après un certain temps, ils ont décidé justement de soit de produire du nouveau matériel chez eux, des choses comme ça. Tout le monde a comme senti un peu le besoin de mieux s'organiser puis de faire quelque chose de son temps. C'est un peu ça aussi.
C'est ça. Puis notre objectif, nous, en créant ces séries-là, cette série-là, c'était de laisser savoir ça aux autres. Parce que c'est souvent des gens comme vous et moi qui ont eu ces réactions-là. C'est pas des super les artistes, bien sûr, mais il y a beaucoup d'inconnus qui ont inventé des façons de faire face à l'adversité. Et on pense que c'est important que ceux qui l'ont pas encore fait comme ça ou qui le voient pas encore tout à fait comme ça voient des exemples. Et c'est un peu dans le sens de la démarche qui, je pense, est très réussie. On est très heureux de la production. Moi, je connais pas Junior personnellement, mais je le connais parce que je l'ai vu et je l'ai entendu. Et j'ai les autres participants, c'était la même chose. Alors, c'est très chaleureux comme façon de faire ce qu'on appelle dans mon métier la promotion de la santé mentale.
Oui, exactement. Je vais vous poser la même question. Je vais commencer avec Junior, puis ensuite, j'irai vous voir, Dr. Perrault. Ici, on s'est souvent posé la question, même avec des invités, on se disait, est-ce que le pire est à venir quand on parle de santé mentale? T'sais, on a l'impression que pendant la pandémie, les gens se resserrent un peu les coudes, vont faire des choses, et après, on a toujours l'impression, est-ce que ça va retomber? Est-ce qu'il va y avoir des problématiques qui n'existaient pas avant ou que ça va empirer les problématiques qui existaient? Quelle est votre opinion, Junior? Je demanderai à Dr. Perrault ensuite la sienne.
Par rapport à ça, je pense que, comme Dr. Perrault l'a dit, je pense que cette pandémie, elle va apprendre aux gens peut-être de devenir plus résilients. Et donc, concernant la santé mentale, je pense que sûrement, oui, ça va laisser des conséquences néfastes et négatives. Mais je pense que s'il y a un groupe de personnes qui vont quand même développer une certaine résilience par rapport aux difficultés de la vie en général. Parce que quand on passe à travers une pandémie comme ça, surtout quand on passe à travers ça tout seul, isolé pendant des mois tout seul, je pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose de positif qu'on retient de ça, parce qu'on devient plus résilient, on se rend compte qu'en fait on est capable de passer à travers une telle chose, et après, quand on rencontre des challenges plus, ben, pas plus difficiles, mais d'autres challenges, on se dit, oh, ça c'est rien, j'ai vécu déjà quelque chose de bien pire que ça, donc.
Donc peut-être d'après vous, c'est ça, les gens vont peut-être s'en servir pour se renforcer, être encore
oui,
plus fort
ça,
face
exactement.
À l'adversité. Oui,
exactement.
Ouais, d'accord. J'aimerais ça savoir ce que Robert Perrault veut dire sur le sujet, en fait, qu'est-ce qu'il a à dire?
Oui. Ben, d'abord, je veux dire que c'est la majorité des gens qui vont s'en tirer très bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes plus vulnérables dans la société et que ces personnes-là, si leur réseau social n'est pas assez présent, se retrouve toujours un petit peu mis à l'écart. Alors, il faut, en plus d'être content qu'il y ait des gens qui s'en tirent, être préoccupé de ceux qui sont plus vulnérables dans la société et s'en occuper. Mais ceci dit, puisqu'on est plus dans ce qu'on appelle la santé mentale positive, la science dit à peu près ce que Junior vient de nous dire. C'est-à-dire que on s'en réchappe seul, ben, en groupe, là, mais sans aide professionnelle, disons, en grande majorité. Alors, il faut faire confiance à notre capacité de guérir d'un traumatisme comme celui-là, parce que le temps fait son œuvre. Le plaisir, quand les vagues successives sont en train de s'atténuer, c'est un plaisir réel qui nous aide à reprendre nos activités.
Docteur Perrin, ouais.
Oui, allez-y.
Non, ça va. Non, je me demandais, finalement, vous en tirez une conclusion très positive de cette série, là, aller vers les autres et se faire du bien en temps de pandémie. Je pense que les objectifs que vous aviez ont été atteints, j'imagine. Les résultats vous satisfont aussi, j'imagine.
Oui, on est très contents. On regarde. J'ai pas avec moi, malheureusement, pour cette entrevue-là, les statistiques d'utilisation de visionnement de nos capsules, mais ça marche bien. On a de bons feedbacks et je pense que c'est une initiative qui mérite d'être reprise. On n'a pas besoin d'une crise pour mettre en vedette des gens ordinaires qui ont des bonnes idées. Nous, notre intention, ce serait de continuer à essayer de mettre en valeur les gens qui prennent des initiatives de soit créativité ou d'entraide importante. Il faut que ça se sache parce que ça inspire les autres.
Oui, c'est ce qui m'a plu beaucoup personnellement d'entendre des gens, comme vous dites, des gens ordinaires, mais qui ont quelque chose de très intéressant à dire. Donc, c'était fort intéressant. Avant de terminer, j'aimerais qu'on mentionne comment on peut trouver ces capsules-là. Vous parliez de le côté audio, même le vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher et qu'est-ce qui est la meilleure façon pour trouver justement ces capsules?
Je pense en googlant « aller vers les autres et se faire du bien ». On va tomber sur le site de Santé Montréal. Il y a aussi une page de capsule YouTube qui est disponible, mais malheureusement, j'ai pas l'adresse, mais je pense qu'il suffit de mettre les mots-clés du titre, parce que c'est un titre assez unique,
oui.
Et on va tomber
dessus. On va trouver. Bien, merci beaucoup, Dr. Robert Perrault, d'avoir été des nôtres à l'émission Folie douce, et merci beaucoup aussi à notre invité en studio, à Junior Diakité, d'avoir été des nôtres, un beau témoignage, et puis... Oui, bonne continuation à vous deux, puis à une prochaine, j'espère.
Merci à vous.
Merci.
Merci, au plaisir, puis au revoir, Junior. Merci d'avoir participé.
Ça fait plaisir, merci à vous aussi.
Merci beaucoup à vous deux.
Tu dis bonjour, tu dis merci, t'es toujours à l'heure au bureau. Le bien aimable, le bien poli, on te prend jamais en défaut. T'es pas du genre qui s'énerve, qui aime taper du poing sur la table, plutôt celui sur la réserve, qui tempère, qui calme. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine?
Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles. Cette porte pour en ouvrir une nouvelle. Un jour tu diras stop, t'inverseras les rênes, tu claqueras cette porte pour en ouvrir une nouvelle.
Faudrait être beau, faudrait être digne, faudrait être fort et puis fragile, faudrait être comme elle, comme il, être belle, être in. Faudrait sourire même au pire, faudrait être docile et utile, faudrait être monsieur tout le monde et en même temps être unique. Combien de temps encore faudra-t-il agir comme ils aiment? Combien de bruit encore avant la couffaine?
Un jour tu diras stop, t'inverseras les règles. Un jour tu diras stop,
t'iras plus jamais au bureau.
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
C'est le Bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, ton sujet, athlète et santé mentale.
Oui, les athlètes qui sortent du garde-robe, j'aimerais dire, c'est peut-être un peu exagéré aujourd'hui, mais qui sortent du garde-robe en parlant, je veux dire, de leurs problèmes de santé mentale.
Il y en a plus, finalement. Il y a une époque où c'était les artistes ou certaines personnalités publiques, mais c'est vrai que les athlètes, c'était plutôt tabou. Hein?
Oui, mais ils le font maintenant. Aujourd'hui, ils sortent et ils parlent publiquement dans leurs problèmes de santé mentale plus facilement qu'avant. Peut-être aussi parce que le monde des athlètes masculins, c'est peut-être un petit peu plus macho, finalement, que le monde des chanteurs, des acteurs, peut-être.
Il y a des athlètes féminines aussi qui sont sorties. Oui. On l'a vu aux Olympiques, les dernières Olympiques, entre autres, puis
aux Jeux Olympiques, différents
endroits là, où les gens n'ont pas trop peur de... Dans le fond, c'est moins tabou, c'est ça qu'on peut en convenir.
De moins en moins.
C'est ça, ce qui est une bonne nouvelle.
Oui, de notre point de vue.
C'est ce qu'on veut avec l'émission, fait nous autres, t'entends que si c'est moins tabou, ben, ça veut dire qu'on fait des progrès. Là.
Exactement. Donc, je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Santé mentale, le témoignage et l'exemple des athlètes peuvent être utiles ». C'est un article que j'ai trouvé sur le site msn.com. C'est écrit par M. Jean-Benoît Legault, qui est journaliste à la presse canadienne. Alors, il commence par une citation de Mme Véronique Boudreau, qui est spécialiste de la psychologie du sport à l'Université de Sherbrooke. Et celle-ci nous dit « En annonçant publiquement qu'ils prennent du recul pour soigner leur maladie mentale, des athlètes de calibre international, comme la gymnaste Simone Biles et la joueuse de tennis Naomi Osaka, prouve que tout le monde peut rencontrer de telles difficultés et qu'il est important de demander de l'aide avant que le fardeau ne devienne trop lourd à porter. » Elle continue en disant « Ils ne sont pas invincibles. On a tendance à croire qu'ils le sont et qu'ils sont immunisés de vivre des troubles de santé mentale parce que ce sont des gens très performants, qui s'expriment généralement bien et qui se présentent bien. »
Et ce qui m'a choqué, si je peux me permettre, Pierre, là, j'ai lu des commentaires justement sur, entre autres, Biles là, aux Olympiques qui s'est retiré pour quelques compétitions. Puis il y a quelqu'un qui disait « Ah, c'est ce qu'on appelle choquer. » Ouais. J'ai pas aimé ce propos-là. Ça veut dire que cette personne-là a vraiment rien compris de la santé mentale.
Ouais.
Puis je trouve qu'on a du chemin à faire là-dessus.
Oui, il y a encore du chemin à faire, c'est vrai. Alors, je poursuis en disant « La liste des athlètes qui ont eu besoin d'une pause pour prendre soin de leur santé mentale est impressionnante. En plus de Mme Biles et Osaka, on pourrait mentionner le nageur américain Michael Phelps, qui a admis avoir envisagé de se suicider après les Jeux olympiques de 2012, la sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson, le cycliste néerlandais au nom francophone Tom Dumoulin et la basketteuse Liz Cambage. Plus près de chez nous, le hockeyeur bien connu Jonathan Drouin a quitté son club, les Canadiens de Montréal, en avril 2021 pour des raisons personnelles, vraisemblablement après avoir été affecté par la couverture médiatique et l'intensité des partisans.
Et certains diraient que ça nous a peut-être coupé, peut-être ça nous a... En fait, on a peut-être manqué la Coupe Stanley d'une certaine façon, mais peut-être pas. Mais en même temps, c'est important qu'il prenne soin de sa santé, c'est sûr.
Je pense que dans son cas, il avait presque plus le choix.
Non, je pense qu'il ne se sentait pas d'attaque.
Oui, mais je reviendrai avec M. Jonathan Drouin. Ouais. Alors, tout compte fait, dit Mme Boudreau, même les meilleurs athlètes du monde ne sont que des êtres humains et ils sont confrontés aux mêmes facteurs de risque que les autres en ce qui concerne leur santé mentale. Au-delà de cela, Mme Boudreau nous dit, ils font aussi face à des facteurs de risque additionnels liés au sport. La pression non seulement de performer, mais aussi d'exceller peut être écrasante. Certaines croyances bien ancrées associent excellence et souffrance. Le fameux slogan « No pain, no gain » qu'on connaît tous se passe probablement de traduction, ce qui envoie à l'athlète le message qu'il n'y a pas de place à se montrer vulnérable et qu'il n'y a pas de place non plus à parler des difficultés de santé mentale.
Et surtout, souvent, dans le temps, je pense qu'on comprenait toujours nos pain, nos gains, c'était physique. Tu sais, la santé mentale, ça a toujours été mis un peu de côté, mais effectivement, c'est très important.
Mm-hmm. Et c'est sans parler des blessures que peuvent subir les athlètes, voire des agressions sexuelles dont ils pourront être victimes dans des cas extrêmes. Étant donné le climat qui va régner et où on va légitimiser ou normaliser des pratiques qu'on n'acceptera pas dans d'autres contextes. Madame Boudreau continue en disant « Dans le milieu du sport, on dit qu'on veut encourager le processus et la maîtrise, mais dans les faits, ce qu'on valorise, ce que les médias valorisent, l'entourage, la société, ça reste que ce sont les médailles, le résultat et la performance. Ce que les fans veulent voir, c'est ce qu'on trouve excitant et qui nous impressionne. Les attentes des participants sont claires. On s'attend à ce que Simone Biles rafle toutes les médailles d'or. On s'attend à ce que Jonathan Drouin remplisse le filet et on s'attend à ce que Naomi Osaka remporte match après match. Quand cela se produit, la situation est tellement banale, tellement attendue qu'on passe rapidement à autre chose. Habituellement, en attendant de voir si la prochaine performance sera à la hauteur des attentes. C'est quand survient une contre-performance que les questions et les commentaires fusent de toutes parts. Alors, je m'arrête ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard dans l'émission.
Oui, à l'espresso allongé, donc athlète et santé mentale, demeurez des nôtres.
La bonne santé mentale touche à tous les aspects de notre vie. Donnons maintenant la parole à nos chroniqueurs.
Bien, c'est avec plaisir que j'accueille notre collaboratrice Isabelle Provencher. Bonjour Isabelle.
Allô Yvan,
allô.
Comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Ça va bien, merci.
Oui, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu sur nos ondes. Tu as quand même une longévité avec nous en tant que collaboratrice à plusieurs niveaux. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler d'un beau sujet qu'on n'a pas vraiment non plus abordé. Ça arrive à l'occasion que tu nous amènes des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est un peu les bienfaits, en fait, sur la santé mentale et sur la santé en général, d'entretenir une relation avec nos grands-parents. Je pense que c'est un sujet qui t'inspire.
Oui. C'est un sujet qui m'inspire. Bien, d'abord, je veux vous dire que je suis super contente de vous retrouver. Effectivement, ça fait trop longtemps. Mais je suis là, de retour.
Oui.
Alors, oui, je voulais vous parler des bienfaits des relations entre petits-enfants et grands-parents. Je suis tombée sur un article d'une journaliste qui s'appelle Danielle Dutrisac. Son article s'appelle « Les relations intergénérationnelles et si on grandissait ensemble ». Et puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'entre autres, on a une entrevue avec Jeannette Bertrand, animatrice, journaliste et écrivaine, et Rose-Marie Charest, qui est l'ex-présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui est consultante et conférencière. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cet article-là qui est sur le site d'aidersonenfant.com. C'est un bel article, c'est bien intéressant, mais je ne veux pas vous en parler trop en détail. Mais ce que j'ai ressorti, dans le fond, c'est les avantages pour les aînés d'avoir une relation avec leurs petits-enfants. On parle d'avoir une stimulation cognitive, physique, par le fait de partager des activités qui soient physiques ou cognitives, je ne sais pas, mais... faire des casse-têtes, faire pratiquer à écrire à son petit enfant parce qu'il est curieux, puis ou lui lire des histoires, tout
ouais.
Ça, c'est de la simulation cognitive.
Juste le mouvement, la dynamisme que ça amène dans une vie, juste ça, je pense, ça tient aussi à quelque chose de bénéfique pour les personnes âgées. Là.
Exactement. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, tu sais. Puis, les enfants, ils sont super heureux aussi, là. Eux, ils voient pas de différence. Ben, ils voient la différence quand mamie est super fatiguée puis qu'elle dit, c'est assez, là, on va arrêter de courir.
Ouais.
Qu'elle a besoin de prendre son souffle parce qu'elle a mal aux jambes. Mais sinon, ils voient pas vraiment la différence.
C'est une personne adulte, c'est une personne de proche, c'est une personne de la famille. Les enfants s'attachent ça. Puis c'est ça, comme tu dis, ils ne voient pas vraiment la différence. C'est une personne de 80 ou une personne de 50. C'est pas une grosse ou moins. Là.
Exactement. Puis ce qui arrive aussi, c'est que c'est tellement un beau rôle. Parce que là, quand tu étais parent, tu avais comme le rôle autoritaire d'élever tes enfants hein, puis de les chicaner. Mais là, tes grands-parents, tu n'as pas ce rôle-là. Là. C'est un rôle bien plus fun que t'as à jouer parce que tu veux te donner la crème glacée à 10h le matin, là. Qui en donne la crème glacée à 10h le matin? Tu comprends ce que je veux dire, Riva?
Tu deviens un peu complice sans que ça soit néfaste jusqu'à un certain point, tu sais, mais je comprends ce que tu veux dire, là. C'est un peu plus ouvert, là.
Exactement. Puis, tu sais, au niveau justement de l'ouverture d'esprit, tu sais, le monde a changé depuis que les grands-parents, quand ils étaient jeunes, c'était un autre monde. Puis ça, c'est super fascinant, autant pour l'enfant que pour le grand-parent, parce qu'ils découvrent, les deux découvrent des mondes inconnus. C'est super stimulant. Fait que, c'est ça, fait que là, j'embarque aussi un peu du côté des enfants. Ce que les enfants peuvent aller chercher, c'est justement d'apprendre sur leur histoire familiale. Tu sais, il y a des questions que tu peux poser à ta grand-mère, mais que tu n'oserais pas poser à ta mère.
Ouais.
Pour X raisons, tu sais.
Ouais.
Mais ta grand-mère, il y a comme un lien émotif qui est différent, puis on dirait qu'il y a moins de gêne à aller poser certaines questions un peu plus crunchy, comme on pourrait dire.
C'est comme une personne proche, mais qui n'est pas trop proche, tu sais.
Exactement, tu sais, puis tu sais, des fois, tes parents ne vont pas te dire que ça allait pas bien à l'école, là, quand ils étaient jeunes, mais tes grands-parents peuvent te dire que, ah ben, tu sais, ton père ou ta mère, il était pas si bon que ça à l'école, puis des fois, ça fait du bien d'entendre ça, tu sais.
Ouais.
Il y a peut-être
une question de temps aussi, tu sais, dans le fond, quand les parents sont toujours au travail, puis ils ont peu de temps pour prendre du recul, alors que le temps, souvent, c'est un des avantages d'avoir les grands-parents proches, là, ils ont plus de temps pour accorder aux enfants.
Bien, je pense que ça aussi, effectivement, tu sais, puis souvent, ils sont à la retraite. Donc, ils ont plus de temps parce qu'ils n'ont pas à travailler puis courir, aller faire l'épicerie. Ils peuvent mettre les tâches de côté pour s'occuper des petits-enfants, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est super le fun. Ce qui est, je trouve aussi avantageux pour les enfants, bien, c'est ça, c'est d'apprendre par rapport aux traditions, des traditions familiales, à la culture, la cuisine de famille. Des fois, on apprend à cuisiner avec nos grands-parents. Puis au niveau des valeurs aussi, je trouve que souvent mes grands-parents ont un rôle d'éducation qui n'est pas le même type d'éducation, mais il y a un rôle d'éducation quand même avec leurs petits-enfants, puis les enfants peuvent profiter de ça, tu sais.
Oui.
Dans l'article de la journaliste, là, Madame Dutrisac, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait les trucs de Jeannette Bertrand
oui.
qui étaient pour aider les grands-parents à créer des liens avec les enfants.
Madame Bertrand, elle démystifie beaucoup le côté justement vieillesse là, des gens plus âgés, puis qu'effectivement, c'est quelqu'un qui s'intéresse toujours à l'aspect humain, mais je suis curieux de savoir ce qu'elle nous raconte.
C'est super le fun parce que, tu sais, on sait qu'au Québec, Jeannette Bertrand, c'est une personne qui a marqué notre quotidien depuis tellement longtemps, tu sais. Puis je trouve ça intéressant comment elle amène les choses. Elle dit que c'est la responsabilité du grand-parent de faire les premiers pas, de pas attendre que les enfants viennent vers les grands-parents. C'est aux grands-parents d'aller vers les enfants.
Okay.
Et comment s'y prendre? Bien, c'est établir des rituels, par exemple, cuisiner des biscuits à Noël, t'sais? Faire des traditions. La chasse aux œufs à Pâques, des choses comme ça.
Ouais.
Tout dépend des familles, là, chacun a sa tradition. Ensuite, on parle aussi d'écouter le jeune et de ne pas le juger, même si c'est un autre temps et que les mœurs sont différentes. Pas juger le jeune, c'est vraiment l'écouter.
Essayer de le comprendre, de comprendre sa réalité d'aujourd'hui, là, qui est
exactement.
Différente.
Puis, surtout, ne pas garder les confidences, ne pas en parler aux parents, parce que ça, c'est sûr que ça va briser le lien de confiance.
Ouais.
Si le jeune se rend compte que ses confidences qu'il fait à ses grands-parents sont répétées aux parents, oublie ça, ça risque de vraiment briser le lien. Donc,
ouais.
Elle dit de faire attention à ça, ce que je trouve important. Elle dit aussi de ne pas avoir peur de déranger ses petits-enfants. Tu as le goût de l'appeler, appelle-les. Au pire, s'il n'est pas disponible, il va te le dire.
Okay.
Puis c'est vrai.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose que j'ai moi-même déjà dit à ma grand-mère, tu sais. Puis, l'autre chose, c'est ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais Jeannette Bertrand l'a répété, c'était le partage de l'histoire de la famille et du parent.
Ouais.
Elle trouvait que c'était un point qui était intéressant puis qui était un point. Il y avait même dans l'article, je trouvais ça intéressant, des questions, tu sais, je ne sais pas par où commencer, il y avait même des propositions de questions.
Okay.
Que tu pouvais poser aux jeunes, puis que le jeune pouvait poser à ses grands-parents.
On redonnera de toute façon le lien de l'article tout à l'heure où on rappellera l'auteur, tout ça, mais j'aimerais que tu nous parles, Isabelle. Je pense que de ton côté, on disait tantôt que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, parce que je pense que tu as été chanceuse d'avoir une belle relation avec tes grands-parents ou en tout cas ta grand-mère.
Oui, je me sens extrêmement choyée du côté de paternel, je dirais, du côté des Provenchers. C'est sûr qu'on est juste trois enfants. Je suis la seule fille. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une relation privilégiée avec mes deux grands-parents, autant ma grand-mère que mon grand-père. J'étais un peu plus proche de ma grand-mère que de mon grand-père, mais j'étais quand même proche des deux. C'est-à-dire que, justement, on s'appelait... et là, on s'appelle encore, mais c'est plus compliqué parce que là, ma grand-mère a fait de l'Alzheimer, fait qu'on parle moins longtemps. Mais avant, on pouvait s'appeler puis je pouvais parler deux heures avec ma grand-mère, là. Puis j'avais du fun, là. Elle me racontait des histoires, je riais.
Ça de tous âges, là. Je veux dire, tu peux parler de même de l'adolescence au jeune adulte, peu importe, à tous les âges, tu as pu l'appeler ta grand-mère.
Écoute, je peux pas te dire quand j'ai commencé à l'appeler, mais ça a commencé assez tôt parce qu'avant de l'appeler, à un moment donné, on vivait quand même loin l'une de l'autre, là, peut-être à 8 heures de différence. Fait que j'allais passer des semaines chez elle.
OK.
Donc, j'avais vraiment un lien privilégié avec elle. Puis mes frères n'ont pas ce lien-là.
Et qu'est-ce qui te fait du bien? Ou qu'est-ce qui te faisait du bien, qui te fait encore du bien avec la relation avec ta grand-mère?
Bien, c'est l'impression, autant pour elle que pour moi, parce qu'elle me l'a mentionné, de pouvoir être moi-même. Puis de sentir qu'elle est fière de moi, qu'elle est fière de qui je suis devenue, de la femme que je suis. Toute l'évolution, mais moi, je suis fière de l'évolution que j'ai vue en elle aussi, parce qu'à un moment donné, elle s'est séparée de mon grand-père, fait que les liens étaient différents, puis j'ai vu, tu sais, je veux dire, pour une femme de un certain... Elle s'est séparée à 75 ans, c'est pas rien, là.
Ouais. Non.
Tu sais, fait que j'ai vu toute son émancipation en tant que femme, c'était ma grand-mère, fait que je pouvais partager des choses avec elle. Puis, il y a des choses que j'ai... C'est drôle, mais moi, j'ai joué au pool dans ma vie, mais pratiquement juste avec ma grand-mère.
OK. J'aimerais voir ça. J'imagine la scène.
Ben oui, surtout qu'elle était meilleure que moi.
OK, ça devait être spécial.
Très drôle, oui, parce qu'il y avait une table de pool dans la maison où il habitait.
Okay.
Donc, c'était quelque chose qu'on faisait aussi en famille, mais quand j'allais la visiter toute seule... Je jouais au pool avec elle. Je trouvais ça bien le fun. Aussi, quelque chose qui nous a toujours rassemblés, c'est chanter et danser. Ma grand-mère avait son gros piano où tu pouvais mettre des cassettes puis tu pouvais chanter du Frank Sinatra à petite tête.
Un genre de karaoké de l'époque, quoi.
Exactement, mais c'était comme un super de beau piano, là, tu sais. Parce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir un piano, mais elle savait pas vraiment jouer. Fait que mon grand-père, il avait acheté ça. Puis c'était pratique de pouvoir mettre n'importe quelle musique. Elle mettait son micro. Puis là, nous, on dansait parce que, à l'occasion, mon petit frère est déjà venu aussi avec nous. Puis là, on chantait puis on dansait dans le salon. Ou sinon, ce que j'ai fait quand j'ai eu mon permis de conduire, j'allais des fois chez elle la fin de semaine, puis je partais en auto avec elle, puis on allait dans des petites villes pas trop loin, puis là, on mettait la musique à toute tête dans l'auto en s'en allant, puis elle chantait. Puis
donc, écoute, c'est un bienfait. Écoute, ça passe tellement vite, crois-le pas, c'est presque fini, Isabelle, mais on voit que l'importance est là pour la santé mentale, pour la santé physique. La relation des grands-parents est très importante. Qu'est-ce qu'on peut chercher, justement? Tu parlais de l'article tantôt, mais qu'est-ce qu'on peut aussi, comme référence, donner aux auditeurs?
Oui, je vais donner c'est aidersonenfant.com Il y a aussi Rosemarie Charest qu'on peut trouver sur YouTube. C'est Animation des belles soirées qu'on peut trouver sur YouTube. Puis j'aimerais aussi faire un clin d'œil parce que je l'ai vue cette semaine aux nouvelles puis je la trouve vraiment merveilleuse. Il y a Joséphine Bacon qui est poétesse innu, conteuse et réalisatrice d'origine bessie-amite, qui dit que dans la culture autochtone, c'est justement le rôle des grands-parents de transmettre la langue et l'histoire.
Oui, c'est ça. On pourrait s'en inspirer plus. Merci beaucoup, Isabelle. C'était fort intéressant, un beau sujet, puis on y reviendra éventuellement, mais c'est un beau sujet. Merci beaucoup de ta chronique à l'émission cette semaine.
Ça me fait plaisir. Au plaisir de vous retrouver une autre fois.
Merci. À la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Le monde peut quitter le monde quand il veut. Partir au bon lui semble quand il veut. Faire d'avril mai, de mai à novembre, du haut et dans la manière, dans la manière. Tout est dans la manière, tout est dans la manière. Loin de moi, ailleurs. Mais il y a la manière, la manière. Mais il y a la manière, mais il y a la manière.
Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, athlète et santé mentale, Pierre.
Oui, les athlètes professionnels qui finalement sortent de l'ombre, si on peut dire, ou sortent du silence.
De plus en plus, d'ailleurs.
Oui, et qui parlent finalement de leurs problèmes de santé mentale. Et nous, on en est très contents.
Oui, oui, alors, on évolue, ça veut dire, ça va un petit peu mieux. Là.
Exactement. Alors, j'avais commencé la première partie de mon espresso, ouais, si tu veux, avec l'article intitulé « Santé mentale, le témoignage et l'exemple des athlètes peuvent être utiles ». C'est écrit par M. Jean-Benoît Legault de la presse canadienne. Et je vais sauter immédiatement à la conclusion de l'article. C'est une citation de Mme Boudreau, qui est spécialiste en psychologie du sport à l'Université de Sherbrooke, et elle nous dit « Finalement, il est important d'en parler. Le fait que ces athlètes puissent prendre la parole, je me doute que ça doit leur demander énormément de courage. J'espère que ça inspire les gens de voir que c'est normal de vivre des difficultés de santé mentale et que ça touche tout le monde. Et il faut en parler et il faut demander de l'aide. C'est le plus important, de ne pas attendre que ça devienne trop difficile et qu'on se rende à un point où l'on a des difficultés à fonctionner.
Oui, ça, c'est sûr que c'est important. Puis probablement que les athlètes se sentent plus appuyés pour sortir la nouvelle, tu sais, alors qu'autrefois, c'était tellement tabou, mais on a l'impression que les ligues ou les associations vont comme donner leur appui aux athlètes.
De plus en plus.
Oui, c'est plus le public, des fois, qui a toutes sortes de propos, comme je disais tantôt, des propos, des fois, qui sont mal placés, là, mais exactement, ça, c'est pas la majorité du monde.
Oui, et dans un deuxième article que j'ai retenu sur Internet, un article intitulé « Anxiété et insomnie, le calvaire de Jonathan Drouin durait depuis des années ». C'est sur le site du Journal de Montréal. C'est écrit par M. Jonathan Bernier, journaliste au Journal de Montréal. Il nous dit « La machine à rumeurs s'est souvent emballée depuis que Jonathan Drouin a choisi de faire une croix sur sa saison en avril 2021. Pour la première fois en 5 mois, le hockeyeur a accepté de faire le point en se confiant à TVA Sport et à RDS. »
Je peux confier, Pierre, que moi, des fois, Jonathan Drouin, on trouvait, tu sais, qu'il performait pas à la hauteur, tout ça, mais en apprenant ça, sans l'excuser, je trouve que j'ai compris des affaires.
Moi aussi. Dit,
peut-être qu'il y a des choses qu'on savait pas, puis ça m'a éclairé sur autre chose. C'est important, sa sortie, à ce niveau-là aussi.
Oui, d'accord avec toi. Alors, Jonathan a dit, ça n'a rien à voir avec la drogue ou l'alcool. Tout au long de l'année, j'ai eu des problèmes d'anxiété et des problèmes d'insomnie, a indiqué l'athlète de 26 ans à Renaud Lavoie. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que je deal avec ça. S'il avait relativement bien réussi à gérer la situation jusque-là, les événements reliés à la pandémie, tels les restrictions, les confinements et les recommandations de la santé publique, ont probablement été les catalyseurs d'un problème déjà présent et persistant. Jonathan continue en disant « Être confiné dans sa chambre d'hôtel, passer 4 ou 5 jours sans pouvoir sortir, c'est certain que ça n'a pas aidé. Ça a peut-être même accéléré le processus. Sans compter que dans les jours précédents, il y a eu son retrait de la formation après une période d'échauffement d'un match à Calgary. Il avait été malade. L'attaquant du Canadien s'est confié le 19 septembre dernier sur les moments difficiles qu'il venait de passer. » Il a dit « Cette semaine-là avait été difficile. Je n'avais aucune énergie pour jouer au hockey. Quand je suis sorti du warm-up, je n'avais aucune force, tant physique que mentale. C'est là que j'ai pris la décision de me retirer du hockey, de prendre soin de moi et de demander de l'aide pour l'anxiété et l'insomnie. »
C'est incroyable, pareil, hein, qu'un athlète de ce niveau-là a plus de force mentale et physique. Écoute, c'est son moteur, là. C'est dramatique, là. Mm-hmm. Il a dû paniquer un petit peu, finalement. En sachant pas trop qu'est-ce qui arrivait, j'imagine. Là, il devait être un peu déboussolé.
Ça doit être très, très, très difficile. Il a dit, cette décision, il raconte l'avoir annoncée à Marc Bergevin et Dominique Ducharme à leur descente de l'avion au retour de l'équipe de Calgary. Jonathan nous dit, il y a eu des larmes. J'avais joué 44 matchs. Il restait une semaine ou deux avant les séries éliminatoires. C'était difficile de quitter à ce moment parce que les séries, c'est la raison pour laquelle on joue. Mais je venais de frapper un mur. C'est le temps de prendre un pas de recul et de savourer la vie, précisant qu'il était maintenant physiquement, mais surtout mentalement, plus en santé que jamais. Le sport professionnel a beau être un milieu compétitif, Drouin assure avoir ressenti des appuis aux quatre coins du circuit, à commencer par ses propres patrons et coéquipiers. Il a dit « Le soutien de Marc Bergevin dès la première journée a été A1. C'est la meilleure réponse que je pouvais recevoir. » Il nous dit « Je suis resté en contact avec Dominique et les gars. C'était facile pour eux de comprendre. Ils ont joué avec moi. Ils ont vu que certaines journées étaient plus difficiles que d'autres. C'était bon d'avoir le soutien de toute l'équipe. » Évidemment, il a suivi l'excellent parcours du Canadien en séries éliminatoires 2021. Il s'est grandement réjoui pour ses coéquipiers et l'organisation, même si, à quelques occasions, cette marche jusqu'à la grande finale de la Coupe Stanley lui a tenaillé l'intérieur. Et on peut le comprendre.
Oui, absolument. Ça devait être dur à vivre à distance.
Oui. Il a dit « Je suis vraiment content de ma décision. Même s'il y a des matins où, je me rappelle la série contre Vegas, ce sont des moments où je voulais retourner jouer au hockey. » Et il conclut en disant « Je savais dans quoi je m'embarquais dès le premier jour. Il y a de la pression et des moments plus difficiles que d'autres. Je suis capable de le comprendre. Mais il y a du fun à jouer à Montréal. » Alors, je n'ai
peut-être
pas...
En terminant, peut-être te rappeler le nom si les gens voudraient aller le lire.
Oui, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire.
Ouais.
Mais ça s'appelle « Anxiété et insomnie, le calvaire de Jonathan Drouin » durait depuis des années sur le site du journal de Montréal.com.
Merci beaucoup, Pierre. Donc, athlète et santé mentale.
On a failli ne plus jamais se voir encore. Aujourd'hui, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire à toutes tes idées noires. Noires. Mais dis-le-moi encore qu'on se sort. Je parle, tu parles et tu me gardes dans le doute. Je parle, tu parles, j'écoute, tu me coupes. On s'était dit, pas de promesses, pas de paroles en l'air. On s'était juré de rester droit, de rester fier. Mais mes genoux fléchissent quand ta main se glisse dans mon cou. Et tes yeux fixés dans le vide ont crié au secours.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Pierre, on va nommer les chansons entendues aujourd'hui à l'émission.
Oui.
On a entendu en début d'émission « Amour toujours »
de Clara Luciani.
On a entendu « Bonjour, merci »
de Arcadien.
Dans la deuxième demi, « Tu peux partir »
de Daniel Bélanger.
Et à l'instant, « Noir »
de Simon Morin.
Merci beaucoup pour le choix musical et la mise en onde.
Ben, bienvenue, mon cher.
Ainsi que pour tes blocs Espresso, tu nous as parlé d'athlète et santé mentale, un sujet fort intéressant encore une fois. Alors, c'est bien qu'on puisse, que les athlètes puissent s'ouvrir justement et pas avoir peur. Nos invités en début d'émission, Dr. Robert Perrault et Junior Diakité, nous ont mieux parlé de la série « Aller vers les autres et se faire du bien en temps de pandémie ». Merci d'avoir été avec nous à l'émission. Notre collaboratrice Isabelle Provencher nous a pour sa part parlé des bienfaits des relations avec les grands-parents. Une histoire un peu personnelle, mais qui certainement qui rejoint beaucoup de gens. Alors, c'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.